RLP.
C'est Maurice Méliès dans l'émission Méliez-vous de ce qui vous regarde, mais surtout écoutez-moi. Chers amis, bonjour. Vous inquiétez pas, il ne gèle pas, il n'y a pas de neige, il y a un beau soleil. Bon, il va faire un peu chaud, hein. Bon, mais prenez un parapluie, ça vous servira d'ombrelle. Ben oui, j'en ai vu plein des gens comme ça qui prenaient des parapluies pour se cacher du soleil. Alors, on va commencer par un éminent membre des hydropathes. Et celui-ci, c'est un hydropathe de Bergerac. Figurez-vous qu'on a réuni les hydropathes de Bergerac avec les hydropathes de Périgueux, et nos soirées ont lieu à Périgueux. Voilà. Donc vous êtes invités, mais je vous préviendrai au bon moment, c'est tous les fins de mois, le dernier jeudi de chaque mois. Et il s'appelle Daniel Malbranc. Et il a un poème qui s'appelle « Slogan » qu'il a dédié à un autre hydropathe, Roland Debord, qui est un petit peu révolutionnaire sur les bords. Hein, sans faire de jeu de mots. Hein. Camarades, camarades, prenez la parole. Donnez votre voix au parti du silence. Que l'incessant zinzin en nos cerveaux cesse, camarades, camarades, que la fureur se taise. Qu'enfin teinte et résonne le magnifique rien. Sus à l'intempestif besoin d'être toujours en connexion, peur de perdre le réseau, tsunami dans le cerveau. La toile, comme celle de l'épère, est un piège. Camarades, camarades, libérez-vous des rettes. Des rettes de l'araignée qui règnent sur vos rêves. Et rejoignez le parti du chute qui lutte par Belzébuth contre l'intolérable chahut et lance un fracassant zut à la face des rois d'Internet qui font de nous des internés. Camarades, camarades, prenez la parole. Donnez votre voix au parti du silence. Voilà. Mais moi, je ne vais pas me taire, moi. Hein. Je ne vais pas me taire, moi, je ne vais pas faire de mon émission un silence, non. Sinon, à quoi ça servirait que vous m'écoutiez si vous ne m'entendez pas, hein. Allons. Hein, ce serait quand même dommage, hein, d'ailleurs, de ne pas m'écouter pendant mon émission. Alors, une petite histoire assez émouvante. Figurez-vous qu'il y a 15 jours, j'ai un ami que j'ai connu en 2001 en Haïti, un jeune de 15 ans, et je l'ai revu il y a 15 jours. Il est passé par... il habite Strasbourg maintenant. Et comme il allait en Espagne, il est passé par chez moi, et au retour, il s'est arrêté. Et vous vous rendez compte, 24 ans après, je le vois. Je ne l'ai pas reconnu, hein, je vous dis franchement, je ne l'ai pas reconnu. Hein. Et j'avais passé déjà des poèmes de lui, à cette époque-là, en 2001. Quoi, hein. Et j'avais mis deux poèmes de lui dans ce fameux livre que j'avais fait sur Haïti. Et je vais vous lire un de ses poèmes. Il est assez triste, parce que même à l'époque, Haïti était déjà très triste. Hein. Des catastrophes qui détruisent notre pays, Haïti. Souviens-toi d'Haïti. C'était le premier pays noir indépendant dans toute l'Amérique latine et les Caraïbes. Malgré cela, est-ce encore important? Puisque l'analphabétisme existe. Une surpopulation, une mortalité infantile importante, le chômage, le pouvoir et l'assistanat, l'immigration, la trahison, l'incivisme, la faim, l'érosion, l'économie, l'argent. Je suis très fier d'être haïtien. Mais je rejette ou condamne certains de ces mots. N'oublions pas que nos ancêtres ont combattu durement pour obtenir l'indépendance. Mais à quoi cela sert-il? Nous, les jeunes, nous avons une mission à remplir. Marchons ensemble dans la fraternité pour construire un autre Haïti. Et ce poème, il l'a écrit le 15 janvier 2002, et il me l'avait donc envoyé, parce que j'ai vu en 2001. Alors, il avait 15 ans, et il était manchot. Bon, il est toujours manchot, hein. Et ce brave gamin, quand il était tout petit, il est tombé d'un arbre et son bras s'est infecté. Et il y avait une mission humanitaire qui passait dans le coin, qui a vu ça. Et dans le lot, il y avait une infirmière qui a dit, faut à tout prix l'amputer, parce qu'on ne pourra pas le sauver si on n'ampute pas. Et ils l'ont amputé. Et maintenant, il a une prothèse électrique, où il fait à peu près ce qu'il veut avec son bras et sa main. Voilà. Et il est heureux, il est marié, il a deux filles. Voilà. Vous voyez, c'est bizarre la vie, hein, parce que ce n'était pas du tout prévu, ce n'était pas du tout programmé. Hein. C'est le hasard des choses. Voilà. Mais c'est beau. Enfin, moi, je trouve ça très beau. Alors après, vous, ça vous regarde peut-être pas, hein, c'est vrai. Hein. Bon. Alors, la mer, figurez-vous qu'il y a quelqu'un qui a édité un livre sur la mer avec je ne sais combien de poètes, et des poètes très connus qui ont écrit sur la mer. Hein. Et alors, c'est les éditions d'hier et de demain, et ce livre remonte à quelle époque, parce qu'il n'est pas tout neuf non plus. Attendez, je vais peut-être pouvoir vous dire à quelle époque il remonte. Est-ce qu'ils l'ont marqué ? 1978, voilà. Alors, je vais vous en lire quelques-uns, quand même, parce que ça vaut le coup. Alors, on va commencer par, vraiment, tout au début de l'histoire, par Homère. Donc, c'est l'Odyssée. Hein. Et, c'est un poète épique grec, hein, ayant vécu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Hein. Donc, vous savez, ça fait un peu loin, hein. Bon. À peine avait-il dit ces mots qu'une lame énorme, d'un terrible assaut, le culbuta et roula le radeau. Ulysse fut jeté loin de son radeau et ses mains lâchèrent le gouvernail. Les coups terribles des vents confondus brisèrent le mât par le milieu. Et à la grande distance, la voile et l'antenne tombèrent dans la mer. Pendant longtemps, la vague tint Ulysse submergé et ne put vite se dégager de la masse énorme de la vague. Les vêtements que lui avait donnés la divine Calypso lui pesaient. Enfin, il put remonter à la surface et sa bouche vomit le flot amer. L'eau tombait en ruisseaux de sa tête. Même en cet état, et malgré son accablement, il ne perdit pas de vue le radeau. Il s'élança à sa poursuite au milieu des vagues et le saisit. Il s'assit au milieu, cherchant à éviter le thème de la mort. Les lames énormes emportaient le radeau çà et là, au gré du courant. Ainsi qu'en automne, bord et roule, dans la plaine, des feuilles épineuses qui s'accrochent au paquet les unes aux autres. Ainsi les vents la poussaient en tous sens le long de la mer. Tantôt Notus l'offrait à Borée pour l'emporter, tantôt Urus le cédait à Zéphyr pour le poursuivre. Voilà, c'est beau, hein ? Surtout que c'est pas d'aujourd'hui, c'est ça surtout, hein ? Alors, bon, je vous lis encore un Victor Hugo, puis on va pas tout lire tout de suite. Hein, chacun son tour. Hein, les mers, il y en a beaucoup, les océans, il y en a beaucoup. Hein. Alors là, c'est un Victor Hugo. Hein, qui n'aurait pas écrit sur la mer ? Même moi, j'ai fait un livre sur la mer, moi, carrément. Sur toutes les mers que j'étais dans le monde, moi. J'en ai vu des mers. Et des grands-mères aussi, j'ai vu. Victor Hugo, il n'y a pas de titre, hein. Quels sont ces bruits sourds ? Écoutez vers l'onde, cette voix profonde qui pleure toujours et qui toujours gronde. Quoiqu'un son plus clair, parfois l'interrompt, le vent de la mer souffle dans sa trompe. Comme il pleut ce soir, n'est-ce pas mon hôte ? Là-bas à la côte, le ciel est bien noir, la mer est bien haute, on dirait l'hiver. Parfois on s'y trompe, le vent de la mer souffle dans sa trompe. Ô marin perdu, au loin, dans cette ombre, sur la nef qui sombre, que de bras tendus vers la terre sombre, par l'ancre de fer, que de flots ne rompent, le vent de la mer souffle dans sa trompe. Nos chiens prudents, le vent dans la voile, déchire la toile, comme avec des dents, là-haut, pas d'étoiles. L'un lutte avec l'air, l'autre avec la pompe, le vent de la mer souffle dans sa trompe. C'est toi, c'est ton feu, que le rocher rêve, quand le flot s'élève, chandelier que Dieu pose sur la grève, phare au rouge éclair, que la brume estompe, le vent de la mer souffle dans sa trompe. Voilà. C'est pas beau, ça, hein ? Bon, on va attendre un petit peu pour vous lire autre chose sur la mer, parce que vous allez en avoir marre de la mer, sinon. Hein. Alors, tiens. Tiens, un poème de moi, tiens. Alors, c'est à la fois un hommage et à la fois c'est triste. Hommage à Chopin, et c'est dédicacé pour ma femme, qui est disparue depuis déjà 10 ans. C'était il y a plus de 20 ans, déjà à Saint-Aquilin. Nous étions occupés à changer des banalités, quand ton improvisation au piano nous coupa nos dires et nos contradictions. Il y avait du Chopin qui planait dans le salon, et beaucoup de toi dans tes évasions musicales. Ton doigté, ne cherchait plus l'ivoire et les notes tellement ton regard s'égarait du côté de Varsovie, ou peut-être de Paris. Tu étais seul, avec ce Frédéric, malgré ce bruit inquiétant de nos paroles, qui parfois dépassait nos pensées. Sais-tu où tu étais, à Nohant ou à Vienne? Et pourquoi pas à Londres, où la brume cachait presque toujours les amants d'une nuit faite de soupirs? Le son, qui montait de ton inspiration vagabonde, ressemblait à de la sagesse. C'est l'odeur d'un tourin périgourdin qui te fit lever les yeux vers la table servie. C'était en 2011. Et mon épouse est décédée en 2014. Exactement. Voilà, bon, je ne m'attarde pas trop là-dessus parce que c'est toujours un peu triste. Vous savez, un poète, il peut aussi être comment sensible. Hein, c'est pas une brute épaisse, hein, comme un boxeur, par exemple. Hein, ça n'a rien à voir. Alors, si on faisait un peu de... Allez, tiens, Bobby Lapointe. Ça s'appelle « Venez les potes ».
Eh, venez les potes, venez chez moi, y'a pas papa. Eh, venez les potes, y'a pas papa, y'a pas papa. Il est parti, ça va être la mouse bing bang party. Eh, venez les filles, bijou, chouchou, lidi, diana, poupou, zizi, mimi, papa, y'a pas papa. On va se marrer, ça va être la mouse bing bang soirée. Piqué dans le frigo, y'a tout ce qu'il faut. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Buvez tous les machins, laissez-moi le porto. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Pour remplir le piano, je vais y prendre un pain, ça me fera du bien. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et l'idiote, toi donc de la voilà papa. Et dit Auguste, ne fais plus joujou avec le lustre. Et gave les potes, hola, hola, voilà papa. Et Mariotte, toi donc de la voilà papa. Et Cristobal, laisse donc ce service de cristal. Tiens, papa n'est pas seul, qui donc qui l'amène? Cubu, licou, pou, i-o, i-a. C'est tonton Archibald, mémé Philomène. Bijou, caillou, chou, genou, hibou. Je vais en prendre pour mon grade. Fini rigolade, la la, quelle salade. Et des potes, visez papa, visez-moi ça. Comme il faut que trotte avec Diana, hola, hola. Tiens, v'la mémé, grimpez sur le dessus de la cheminée. Et dit tes potes, hola, hola, voyez-moi ça. Comme elle gigote, hola, hola, on croirait pas. Qu'elle est vétuste, tiens, la v'la qui s'élance dans le lustre. Ça, c'est du vrai trapèze, ça, c'est du boulot. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Elle a l'air bien à l'aise, j'y tire mon chapeau. Cubu, licou, pou, i-o, i-a. Oh, tonton Archibald, tu jongles pas mal avec le cristal. Et dites les potes, oui les papas, oui les Diana, oui les Charlotte, oui les Didi, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas, où elles sont les filles, oui les papas.
Et dis Bobby, si ton papa tu cherches, ben je vais te le rendre.
Et voilà, notre cher Bobby Lapointe. Et donc, s'il était encore vivant, qu'est-ce qu'il nous ferait comme belle chanson, hein ? Enfin, il nous en a laissé un bon paquet, quand même. Hein. Alors là, je sors mon fameux livre sur la mer. Bon, moi aussi, j'ai fait un livre sur la mer. Poème pour des filles d'océan. Alors, ce livre, il a été édité, que je ne vous dise pas de bêtises, en 2005. Et comme je vous disais, j'ai fait beaucoup de mer et d'océan. Sur l'eau, dans l'eau, sous l'eau, au bord de plage. Et là, j'ai fait un poème qui s'appelle « Mer du Nord » et qui a été écrit à Petit Fort Philippe, c'est donc entre Calais et Dunkerque. Mes parents ont eu une maison à, allez, une centaine de mètres de la plage, voilà. Enfin, avait, maintenant c'est un de mes neveux qui l'a. Mer du Nord, la mer était hirsute. Ma barbe, déchaînée. Le port recrachait de la mer au large, alors que les mouettes en reprenaient un bol de pleine mer. Les corneilles arrivées en renfort après la saison d'été empêchaient les mouettes de bâiller. Les atomes de la centrale de Gravelines n'étaient pas encore assez crochus pour éclairer les mensonges des vieux marins serrés collés sur le quai du coin des Minteux. Alors le coin des Minteux, c'était un coin où il y a, entre le port et la plage, c'était une petite cabane où les vieux marins venaient là pour discuter, pour jouer aux cartes, un truc comme ça. Et ça parce que c'est, il y avait des marins qui avaient jamais été en mer là, hein, des fois. C'est pour ça qu'on appelait le coin des Minteux. Le Christ, une fois de plus que nu, jugé sur ce calvaire, ne bronchait pas en se heurtant de front à la tempête. Vauban et Cochon avaient déversé 1000 femmes aux saints et saintes pleines de victoire et de marmots criards dans la ville fortifiée. Les mouettes s'enfilaient à chaque pas des chaussettes tristes en mazout démodée. La marée, la tête basse, avait emporté avec elle le devant et les rafales sentimentales qui se traînaient derrière elle. Puis le soleil, comme pour se faire pardonner, avait laissé traîner un par-dessus de lumière et ses rayons au service d'un ciel de mer à mi-donner. Voilà. Vous voyez ? Alors, j'ai l'esprit de sel. C'est l'histoire du sel qui part avec les rivières, qui va dans la mer et qui reste dans la mer, et ainsi de suite. Voilà. Sachant que l'évaporation de l'eau de mer n'emporte pas le sel avec l'évaporation. C'est pour ça que l'eau redevient douce quand elle tombe sur nous. Vous voyez ? C'est de la... Comment on pourrait appeler ça ? De la science, peut-être. C'est peut-être de la science. Hein. Alors, Daniel Malbranque. Encore un hydropathe, mais ça, vous le savez, je vous l'ai dit. Et alors, il y a Pinget et Ponge se renvoient la balle. Et ce poème est adressé à moi, à Maurice Mellier. Alors, je ne sais pas si Pinget et Ponge existent vraiment. Est-ce qu'ils l'ont écrit à deux ? Il va falloir que je demande à mon copain. Mais le vent d'avoir fait l'amour comme un vieux sioux, je trouve sur la table de cuisine une botte de radis. Quel rapport la poésie voudrait-elle que j'établisse entre cette nature, nature morte, et moi son contraire ? Et l'ont à la ressource toute la panoplie des symboles salaces ou des laides et vils prosopopées, qui tirent en toute occasion le son ex cathedra. Mais suis-je si contraire aux tubercules roses qui s'éternisent là sans aucun sens sur la nappe blanche, à la fin de la première strophe, le poème aurait pu, laissant en si mystère, finalement se taire. Mais allez donc savoir, l'envie soudain me prit de faire à l'événement de l'impromptu rencontre, et je crognais. Alors est-ce qu'il y a une faute d'orthographe, je ne sais pas. Et je crognais sauvage dans un pauvre radis. Donc c'est normalement je croquais. Ben oui. Tout près, dans la chambrette, avec insistance, on ne cessa d'appeler à d'autres réjouissances dignes du paradis. Voilà. Alors, il fallait choisir entre les réjouissances, extra truc, et le radis. Voilà. Hein ? Alors, apparemment, j'avais choisi le radis. Bon. Et c'est vrai que j'aime ça, les radis. En plus, c'est pas faux, hein ? J'adore les radis. Bon, tiens, allez, on va passer Milady de Bachoun.
Je n'ai pas dit Milady, je t'en ai soufflé que ma bougie. Servi chaud à Nagasaki. Je me marie, c'est pour toute la nuit. charbon, les amis. Petit ramoneur, je te suis. Suis-moi, belle old lady. Belle old lady. Ça se vérifie, ça s'étudie. Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai dit? La brigade du Sassérie. Un coup j'avoue, un coup je nie. C'est tout ce que je t'avoue à venir. Suis-moi, belle old lady. Belle old lady.
Et voilà, Bachoun. Eh oui, c'est encore un bon chanteur, ça. Il est parti, sans nous dire au revoir. Alors, dans mon deuxième tome, Balade poétique au travers d'un prévert, imprimé un seul exemplaire. Ah ouais, c'est fini maintenant. J'avais fait plus plusieurs exemplaires, j'avais pu faire les salons de poésie du livre, ou des trucs comme ça, ou même mettre les livres dans les librairies. J'ai tout viré. Je donne mes livres. Enfin, ceux qui me restent. Hein. Sinon, les nouveaux, je les imprime un seul exemplaire. J'en suis déjà au troisième, quatrième livre, à un seul exemplaire. Hein. Et là, alors, j'ai un poème, Les œufs de la haute cour. Ce fut écrit le 12 mai 2014. Je m'étais brouillé avec les œufs de la haute cour. La poule du perchoir d'en face m'attendait au poulailler du théâtre Bobineau. Vous savez comment c'est dans les théâtres. Hein. On appelait les endroits, il y avait le poulailler, il y avait le... Comment on appelle ça? C'est un endroit où on marche, il n'y a pas de banc, il n'y a pas de siège. Hein. Bon, mais ça, c'est dans les vieux théâtres. Hein. Le coq gallois prenait le ballon ovale pour un œuf d'autruche et Jacques l'inventeur étranglait un lapin à l'odeur de moutarde. Tout ça pour vous faire lire que le dire est un vecteur photographique pour le voir. Et si, par le plus petit des grands hasards, vous n'avez rien senti, alors demandez au toubib de vous prescrire un bain de sel, sans épices, mais juste avec une pointe d'ironie qui sortira au moment de le voir en entier. Bon, là, vous avez compris, hein, bon. Hein. Bon, là, je vais vous faire un dessin, quand même. Hein. Bon, mais vous avez intérêt à avoir du papier à cul, quand même. Hein. Bon. Allez, une recommandation importante, mais facultative. Laissez dire que le fer doit repasser sur coton, car le dire ne règle rien, et encore moins le thermostat, mais le voir faire est essentiel. Et si, pour la petite histoire, vous n'avez pas compris que le TTC est la taxation toute connerie confondue à votre savoir-faire, alors débranchez vite de le dire, sans trop le faire savoir. Et s'il y avait une moralité à cette mise en garde à vous, les œufs de la haute cour, même, nous pourrions vite le lire, le voir, le dire, le savoir, le faire, sans l'amidon et le bonsoir. Voilà. Hein. Donc vous avez compris. Hein. Bon. Si vous n'avez pas compris, je vous le relirai la semaine prochaine. Hein. D'accord. Voilà. Alors, encore un de mes hydropathes, Jean-Claude Lemoine. Alors lui, il a 90 ans. Et on vient de perdre un ami, 99 ans, hein, Pierre Mulon. Un mec fantastique. Des mecs comme ça, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais moi, je suis un petit garçon à côté de lui. Hein. Je n'y arrive pas à l'orteil du pied droit. Hein. Ouais. Alors, ça s'appelle « Nous ne vieillirons pas ensemble ». Bon, c'est un peu tristounet, mais c'est, bon, on va dire que c'est la vérité. Hein. Regardez, moi, j'ai pas pu vieillir avec ma femme. Hein. Nous ne vieillirons pas ensemble, passe un métro. Des gens riaient, semblent ignorer le craquement de leur poudre humérale. Ta robe, pendue dans le petit placard, réclame le corps qui va les regards. Couvre-toi bien dans l'espace sidéral. Ne conviennent les corsages de la rue Michelet. Couvre-toi, main plus tiède que mantelet. Nous ne vieillerons pas ensemble. L'ouvrage qui, d'habitude, rassemble, gardera toujours l'amère odeur du départ. Amer le vin d'un vieux solitaire, froide la couche du vieux solitaire, sans miroir, sans pupille, où qu'étaient ses souvenirs. À jamais frustré d'un complice à venir, infirme, amputé de la meilleure part. Nous ne vieillirons pas ensemble. Pas de vieilles mains jointes qui tremblent, pas de grand-mère pour les enfants des enfants, pas de vieille dame aux cheveux blancs, pas de sourire, connivence d'un attelage en retraite, au cœur, une infime lézarde secrète. Nous ne vieillirons pas ensemble. Les assiettes de la vie ne sont pas toutes aussi pleines. Tu n'étais pas gourmande, ne réclamais pas des desserts, mais partir au fromage. Tu nous fais trop de peine, salaud de cancer. Voyez ? Et je crois que c'était sa première femme qu'il a perdue. Bon, il n'y a pas de date, non ? Ah, si, 1984, oui. À Daniel, bon, je ne sais pas si c'était... C'est peut-être sa première femme. Enfin, bon, passons. C'était une chose très triste. C'est ça, la poésie, hein. C'est pas seulement... c'est pas guerre, seulement. Non, c'est pas seulement guerre. Alors, attendez, là, faut que je trouve l'auteur de ce livre. Professeur Guy Naonek. Alors, l'assis dans son slip. Waouh ! Oh, ça va être beau. Toi qui manges tous les jours à ta faim, pense un peu à tes frères africains. T'as du pain, t'as de la viande, t'as du vin. Et au sud, des enfants meurent de faim. Tu pourrais peut-être y penser. Un peu plus au lieu de faire ton tiercé, car 10 francs pour un cheval gagnant, c'est peut-être la vie d'un enfant. Tu me diras, ces gens malheureux, j'y peux rien, s'ils crèvent de faim. Mais comment peux-tu être heureux si des mômes crèvent comme des chiens? Tu t'en fous? Je vois de tes frères qui souffrent, qui hurlent et qui t'appellent. Tu ne manques pas d'air. Mais sur le jonc, tu me pètes. Pourquoi ne comprends-tu pas que sans eux, tu n'existerais pas et que sans leur civilisation, tu serais encore plus con? C'est beau, hein? Et c'est vrai. C'est vrai, quelque part. Mais c'est vrai que, bon, il arrive un moment, on ne peut pas tout faire dans la vie. Hein. Il y a des gens qui se sont dévoués, oui. Moi, j'en ai fait un peu partie à une époque. Bon, et maintenant, je suis trop vieux pour m'amuser à faire ce genre d'humanitaire, voilà, d'humanitaire, enfin. Alors, tiens, Jean Boussuge, on va revenir sur lui un peu. Hein. Alors, il a un poème qui est assez marrant. Ça s'appelle « Fruits ». Alors, ce livre a été édité, c'est un des premiers livres qu'il a écrit, d'ailleurs, enfin, qu'il a fait imprimer, en 1982, oui. On a encore un peu de temps. Une minute. Oh, ben, je pourrais pas le dire, il est trop long, il est plus long. Bon, ben, tant pis, on va discuter ensemble. Hein? Françoise, tu m'as écouté, j'espère. Oui. Oh, c'est sympa, ça. C'est sympa. Je vais t'inviter hein, pour les frites belges. Oui, parce que je sais que tu aimes ça. Bon. Je sais pas quand tu voudras. Hein. C'est pas pressé, hein. Tu sais, les frites belges, ça va attendre. Hein. Ah oui. Comme les Belges, d'ailleurs, hein, ils attendent. Ils attendent que ça se passe. Ben, les frites belges, c'est pareil. Figure-toi. Eh oui. Bon, mes chers amis, François, je vais vous laisser. Alors, moi, demain, non, ce soir, là, cet après-midi, je vais à l'enterrement de mon copain qui a 99, et je ne peux pas faire autrement parce que j'ai tellement aimé cet homme. Allez, je vous embrasse tous, à bientôt.